pour le Skyplex du jour sur le podcasteur, on va se balader à plus de 10 000 km de l'endroit où il est fait, c'est-à-dire à Grenoble, à 9 heures de décalage horaire. On va en face de Seattle avec Philippe Boucher. Salut Philippe.
Eh, salut.
Ça va bien?
Ah, il fait très beau aujourd'hui ici, c'est magnifique.
Oui, mais c'est pas la peine d'en rajouter. En France, il fait un froid de canard, il y a de la neige, c'est terrible. Alors Seattle, donc c'est sur la côte ouest des États-Unis, nord-ouest des États-Unis, et vous êtes carrément sur une île qui est en face, Bainbridge, qui ressemble à quoi cette île-là?
Je disais dans le journal que c'est un endroit assez dangereux d'être là, parce que c'est sur une faille. Alors on attend le tremblement de terre majeur, il y en a déjà eu. Non mais sinon, vous voyez, c'est magnifique puisqu'en fait, pour ceux qui sont un petit peu écolo, c'est l'île où habitait le grand chef indien Seattle, qui a donné son nom à la ville, et qui a fait un cours très connu où il parle de l'importance de la nature, etc. Et on comprend pourquoi il habitait là. À un moment donné, j'ai habité tout près de là où il vivait lui, et c'est magnifique parce que on voit la mer, bien sûr, et puis les montagnes. C'est une sorte de golfe du Morbihan géant, en rajoutant les Alpes. Donc évidemment, le paysage est assez fantastique.
Bon, vous êtes un activiste à la fois du blog et puis de la lutte pour la préservation de l'environnement, de l'anti-tabagisme également, hein, vous avez pas mal œuvré là-dessus.
Oui, j'ai fait ça pendant longtemps. Mais surtout, un partisan du blog et du podcasting, ouais, que je peux apprécier, y compris bien sûr le podcasteur, n'oublions pas.
Merci pour le cirage de pompe.
Non, pas du tout, c'est fascinant, c'est une admiration sincère et réelle.
Ouais, c'est gentil.
Pour les pionniers qui font ça, parce que c'est extraordinaire. Bon, c'est-à-dire que Skype est extraordinaire aussi, on peut le dire, ça, on en profite.
Ah oui, ça fonctionne vraiment bien là quand même. Hein.
On incite tout le monde à faire ça. Mm. Et je suis même, je travaille aussi maintenant pour une émission écolo qui est faite à San Francisco, et j'essaye d'expliquer à cette charmante personne qui fait la radio qu'elle devrait utiliser Skype et Skype Plex. En donnant les crédits, bien sûr, aux podcasteurs.
Bah justement, cette émission, on peut en dire un petit mot, c'est sur Air America, qui est une nouvelle radio qui a été créée par des gens de gauche aux États-Unis, qui trouvaient que l'univers radio était un peu teinté à droite, quand même.
Oui, teinté, il était complètement dominé par la droite, les extrémistes de droite, donc ils ont créé cette radio, et il y a bien sûr tout un pendant Internet, podcasting, etc., donc on peut l'écouter en France aussi, et elle fait une émission hebdomadaire, sur l'écologie, sur l'environnement, qui malheureusement, dans la version FM, est programmée à des heures impossibles, très tôt le matin, mais on peut l'écouter en revanche très confortablement sur Internet. Donc moi je me suis occupé de faire un blog pour elle, parce qu'elle n'avait pas le temps ni les connaissances, pourtant il n'a pas trop de connaissances, mais enfin pour faire ça.
Vous êtes depuis combien de temps à côté de Seattle?
Ah bah ça va faire 6 ans bientôt.
Mm-hmm.
Ça va faire plus de 6 ans.
Mais vous êtes venu là-bas pour quelle raison particulière?
Ah, c'est une longue histoire. Il y avait une grande partie familiale parce que je suis marié avec une Américaine.
Mm-hmm.
Et il y avait des problèmes de famille. Sa maman était malade. Ça faisait 20 ans qu'elle était en France. Je trouvais que maintenant ça commençait à bien faire. Donc ça a été un élément majeur du changement. Et c'était... Ouais, voilà, on est venu là puisqu'elle avait de la famille et tout, puis que c'était magnifique. Mm-hmm. Petit changement, quoi.
Alors en France, vous avez eu plein d'associations, notamment que vous avez créé, présidé, pour lesquelles vous avez communiqué, vous avez fait du lobbying sur les ministères, notamment de la santé, pour que, notamment sur la lutte anti-tabac, il y ait des lois qui soient passées pour qu'il y ait plein de consommation de tabac dans des transports publics, par exemple, genre l'avion ou le train.
Ouais, enfin, c'est ma vie, c'est ma vie passée.
Ouais, c'est vieux tout ça.
Ouais. Toute mon activité récente, et même ce que j'ai fait là-dedans, et maintenant ça fait 2 ans en fait que j'ai vraiment décroché, j'ai décroché en fait aussi tout bonnement et simplement parce qu'il n'y avait plus de boulot, il n'y avait plus de crédit. C'est une chose assez intéressante qui s'est produite aux États-Unis dans ce domaine, c'est que tout le monde a parlé de l'énorme accord qui a été passé avec les fabricants de tabac qui ont accepté de payer des milliards de dollars pour que la justice américaine ne les poursuive plus, en tout cas la justice des différents États. Et on s'est dit à ce moment-là, ça va être formidable, avec tout cet argent, il y a plein de petits tabacs qui vont être financés. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les législatures des différents États ont immédiatement mis la main sur le pognon. Et en fait, même les États qui avaient des programmes extrêmement développés d'anti-tabac, comme par exemple le Massachusetts, faisait mon admiration avec plein de spots extraordinaires, ça a été complètement supprimé. Et moi, j'ai fait partie de la vague des suppressions à un moment donné, il y a 2 ans. J'avais trouvé quelques petits financements et puis tout ça a disparu. Donc, c'est vraiment un secteur qui a été complètement sinistré, quoi. Les gens, il y avait des centaines de personnes qui travaillaient là-dedans et ça a disparu, quoi. Ils ont été effacés. Et moi, en fait, ce que j'avais fait quand j'étais arrivé aux États-Unis, effectivement, c'est uniquement grâce à Internet que j'ai pu travailler, parce que je faisais, à l'époque, je n'avais pas encore du tout découvert le podcasting, des entretiens via email. Mm-hmm. Alors qu'en fait, j'aurais eu Skyplex, j'aurais pu faire ça aussi. Mais c'était, ça n'existait pas à l'époque, je crois.
Alors, vous vous présentez actuellement comme un cyberjournaliste, en fait, parce que là, vous avez 5 ouais. blogs qui tournent en même temps pour vous.
Oui, bah d'abord, il faut bien voir que au départ, j'explique d'ailleurs dans les blogs, c'est uniquement lié au fait que, en partie lié au fait que je suis au chômage. J'ai pas réussi à retrouver de boulot quand j'ai perdu mes contrats dans l'anti-tabac, et donc ça m'a pris un peu de temps et ça continue à prendre du temps. Et c'est de remettre sur mes pattes financièrement et avec question boulot. Et comme j'ai découvert le podcasting, je me suis dit c'est vraiment intéressant. J'ai toujours aimé beaucoup la radio, même si j'en ai jamais fait professionnellement. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant de faire ça. Donc, j'ai démarré une web radio locale, mm-hmm. qui s'appelle Voice of Bainbridge.
Oui, du nom de l'île.
Exactement. Et alors là, s'il y a quelqu'un qui vient à la librairie locale, chaque semaine, il y a un auteur qui vient, hop, je l'enregistre. Il y a des groupes locaux qui font des trucs, je vais les enregistrer. Madame le maire veut nous parler, le conseiller municipal a quelque chose à raconter, il s'est passé quelque chose. Ouais, c'est du journalisme local. Radio, quoi. Mm-hmm. Et j'ai commencé à mettre ça online. Alors c'est intéressant, c'est sûr. Ce qui se passe effectivement, c'est que ça prend un peu de temps pour construire l'audience. Parce qu'en plus ici, c'est une ville un petit peu... Pour aller à Seattle, où les trois quarts des gens travaillent, il faut prendre le ferry, ce qui est une demi-heure de transport par jour. Et les gens partent très très tôt pour aller à Seattle. Quoi. Le premier ferry doit être aux alentours de 5h30 du matin. Il faut se lever bientôt pour, si on va en voiture, pour avoir de la place sur le bateau. Quoi. Mmh. Donc ces gens, ils partent très tôt le matin, ils reviennent très tard le soir. Donc arriver à leur faire écouter quelque chose, c'est pas leur priorité. Quoi. Mais je pense qu'avec justement le développement de la possibilité de les enregistrer quand on veut et de les emmener l'enregistrement avec soi sur un iPod, il va peut-être se créer un marché un peu plus grand, une audience un peu plus grande.
Alors ça, c'est un des blogs, il y a Voice of Bainbridge,
ouais,
Voice of Bainbridge. Mais il y en a d'autres, hein, parce qu'il y a, il y a Blogosphère, qui est une sélection...
Oui, Blogosphère, ça c'était parce que... En fait, je me suis rendu compte que les blogs, c'était un très bon moyen, enfin c'était un bon moyen pour moi de prendre des notes. Mm-hmm. Et quand je regardais un sujet, j'essayais de trouver un sujet qui m'intéressait, bon, les blogs m'intéressaient, et quand je me disais, bon, je veux garder trace des sites que je voudrais contacter... Et finalement, c'était presque plus rapide de prendre des notes et de les mettre sur le blog que de commencer à avoir juste une référence sur le site ou à me faire un email et à me mettre la référence. Et au moins, comme ça, je peux le partager. Mmh. J'ai fait ça pour un autre blog qui s'appelle Ecofilms, parce que je faisais une recherche pour une recherche de boulot. Et pour me préparer à boulot, j'étais amené à rassembler de l'information et je me suis dit, la meilleure, la plus simple, c'est de créer un blog, quoi. En fait, c'est une manie. Il y en a même qui sont pas là que j'ai créé, qui sont pas. Non, je parle pas, quoi. Et donc, oui, c'est trouvé que c'est un outil de gestion de l'information, vraiment, je trouve très commode.
Alors, il y a également EcoTalk, ça, c'est pour l'émission de radio de Air America que vous avez créé. Ouais. Et puis, il y a Blog Vert, parce que vous êtes quand même un écolo aussi. Blog Vert.
Mmh. Ouais. Oui, Blog Vert, ça, c'est pour les écolos. C'était avec une envie éventuellement de retourner en France ou de travailler en français. Donc là, j'ai créé ça, et c'est une sorte de blog, oui, c'est-à-dire que c'est une approche très personnelle, je prends des choses qui m'intéressent, je le mets dedans. C'était aussi un moyen d'essayer de me repositionner, ou de dire coucou, me revoilà, je fais quelque chose, avec pas mal, un peu de frustration, parce que, frustration, oui, je trouve que les gens qui sont en place en ce moment dans les associations, dans les organisations, n'ont pas encore vraiment compris ou pas saisi l'opportunité des blogs. C'est-à-dire qu'ils ont des sites traditionnels, la plupart. Mmh. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui pourraient être échangées par les blogs. Toute cette mouvance écolo devrait absolument apprendre à faire de la radio par Internet.
Comment sont les écolos américains ? Est-ce qu'il y a une mobilisation environnementale qui est forte aux États-Unis ? Je crois que sur la côte ouest, évidemment, elle est là. Mais est-ce que vous la sentez forte et différente de celle qui est en France ? En bref, est-ce que les verts se déchirent un petit peu moins aux États-Unis qu'en France, par exemple ?
La notion de parti, le parti vert, il est très local au niveau national. Dans les élections qu'il y a eu, ils ont pas, j'ai pas très long. Tout le monde était tellement pour Bad Bush que la candidature verte, elle est un peu passée à l'as. Et puis il y a eu le contre-coup de la candidature Nader en quand la première élection avec Bush, où on a dit que Nader avait causé l'élection de Bush en prenant des voix aux candidats démocrates. Donc, c'est pas pour le parti lui-même, pour les associations Parti Vert, pour les associations, il faut voir que ce sont des associations qui sont anciennes, avec beaucoup d'adhérents. Je pense que le fait que Bush ait été élu, comme il est vraiment terrible, terrible contre l'environnement, ça incite les gens probablement à soutenir davantage les associations. Sa réélection risque d'être... les gens sont extrêmement découragés. Alors, ils peuvent croire. Ils disent qu'ils ne le sont pas, ils disent qu'ils ont fait ci, ça, mais je pense que ça va être très dur. Et en même temps, c'est peut-être pas mal, parce que ça va peut-être quand même les obliger un peu à une remise en cause de la manière dont ils sont organisés. Si ça pouvait les aider à justement... décider de faire un peu plus de Skyplay, faire un peu plus d'utilisation des web radios alors qu'ils n'en font pas du tout à l'heure actuelle, ça serait bien. Ce que j'espère, c'est que oui, ça va les inciter à se mobiliser davantage avec les nouveaux médias, quoi. Parce qu'ils vont rester, et c'est la même chose en France, je crois, à une utilisation de l'Internet qui est une utilisation pas dynamique, en sens que, oui, elle n'utilise pas du tout les blogs, elle n'utilise pas du tout la radio, elle n'utilise pas du tout, ou très peu, la vidéo. Il y a quelques exceptions, mais il n'y a pas vraiment d'utilisation constante.
Bah, c'est pour ça que vous en faites pas plusieurs, vous, en fait. Vous prenez de l'avance.
Non, j'en fais pas. J'essaye simplement de faire ce qui me plaît, et puis de là où j'avais des opportunités, je pensais d'offres d'emploi, que ça m'intéressait, je les ai développées. Mais sans plus, ce que j'essaye de faire, c'était de voir si on peut développer des émissions régulières. Ça s'est avéré difficile parce que jusqu'à présent, ça ne mord pas tellement au niveau des dirigeants. Je pense que ce n'est pas sur leur radar, quoi. Ils n'ont pas encore compris ce que c'était que des blogs. Et je crois qu'on voit la même chose en France. Je veux dire, pourquoi Noël Mamère n'a pas de blog? C'est incroyable, ça. Pourquoi est-ce que Noël Mamère, qui est un ancien journaliste, ne fait pas une émission de radio sur Internet? Incroyable. Je le prends lui, parce qu'il a des capacités, il est simple pour lui de le faire. Et les autres, c'est la même chose. Je veux dire, ils n'en font pas non plus. Et donc, je crois qu'on en est qu'au début. En fait, la demande vient d'en bas. Les gens, ils ont les auditeurs, ils disent alors, on aimerait bien les entendre, on les entend pas.
Un mot de Seattle quand même, Philippe. On dit que c'est une des villes les plus sympas à vivre des États-Unis parce qu'il y a la montagne, la mer qui se côtoient, il y a des forêts somptueuses à côté. Bref, c'est un écrin de nature autour d'une ville, vraiment. C'est aussi bien que ce qu'on dit, Seattle.
D'abord, moi, j'habite de l'autre côté de la mer. 30 minutes de ferry, ouais. Donc... c'est passé d'une grande ville, effectivement. Seattle en soi est pas forcément grande, mais forcément il y a plein de banlieues qui sont construites autour. Donc c'est une agglomération de 1 à 2 millions d'habitants qui se développe à une vitesse terrible, mais qui se développe comme ça, avec beaucoup, sans transport en commun, ou finalement assez peu de transport en commun bien organisé, pas de métro. Ça fait des années qu'ils discutent comment faire le métro, et ils ne le font toujours pas, à la différence de Vancouver, qui a fait beaucoup plus d'efforts, je crois. Donc c'est une ville qui est plus cool, certainement, que d'autres. Moi, je préfère là où je suis, parce que c'est dans un petit peu de 20 000 habitants, où il y a très peu de voitures encore, où pas de circulation, il n'y a pas de problème, on trouve dans les grandes villes. Et dès qu'on est à Seattle, bon, mais la circulation, tout ça, c'est... Mais pour les gens qui y habitent, je pense que ouais, c'est une ville qui est dynamique, qui est beaucoup plus libérale que plein d'autres. Très bel état, les gens qui aiment aller dans la nature, bon, bah, ils sont servis. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Bush, parce qu'il a vraiment l'intention de couper pas mal de forêts. Je ne sais pas comment ça va se passer ici. Ici, on a un peu la chance, de ce point de vue-là, point de vue politique, parce que l'État, maintenant, est complètement contrôlé par des démocrates, donc ils vont peut-être essayer de ralentir les velléités de tout saccager. Mais c'est vrai que c'est... Oui, j'incite les gens. C'est une ville qui est jumelée avec Nantes. Mm-hmm. Pas que le jumelage, d'ailleurs, soit très actif, donc peut-être qu'on pourrait leur proposer quelque chose dans le domaine de l'Internet. Ça les intéresserait de développer les échanges comme ça. Ça serait certainement une manière de faire des échanges aisément. C'est une idée qui me vient à l'antenne. Je n'y avais pas pensé avant, mm-hmm. Mais effectivement, ils pourraient le faire. Je ne sais pas s'ils le feront, mais Nantes étant une ville certainement très dynamique, il y aurait beaucoup de choses à développer.
De façon générale, comment est-ce que vous vivez en tant que Français aux États-Unis? Comment vous vous sentez dans cette civilisation américaine aujourd'hui?
Bon, d'abord, moi, je suis très intégré, forcément. Ma femme est américaine, je connais beaucoup d'Américains. Donc les Français, je ne sais pas du tout le genre communauté française. On en connaît comme ça, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas la colonie française qui se réunit pour ce... Et en même temps, comme je pense aussi, c'est peut-être lié au fait, c'est peut-être plus le cas à San Francisco, il y a peut-être une plus grande ville. Ici, les gens sont peut-être moins organisés. Donc bon, français aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que l'Internet crée une sorte de... On y est sans y être, quoi. On n'est pas en France, mais moi, je lis Libération avant que vous lisiez Libération, hein. Puisque c'est publié à minuit et demi pour vous, tout le monde est dans son lit, mais pour nous, c'est encore la journée, donc on lit très tôt. Donc on a un peu cette impression d'être aux États-Unis, puisqu'on y est, et en même temps, grâce à l'Internet, on suit tout à fait, minute par minute, quasiment ce qui se passe en France, ou une bonne partie de ce qui se passe en France. Du moment que c'est mis sur le net, on le sait, quoi. Si on veut le savoir, on peut le savoir. Donc ça, c'est une chose. Sinon... je peux dire que maintenant, je crois que c'est plus facile de trouver de bons fromages. Ils ont fait des efforts en ce qui concerne le pain. Donc, on peut trouver du bon pain. Le vin est bon, toujours encore un peu cher, c'est sûr, mais...
Les vins californiens sont de mieux en mieux.
Oui, alors, bah, surtout, il y a des vins dans l'état de Washington, puisque c'est la même situation que la Loire. Donc, ils font beaucoup de vins et beaucoup de bons vins aussi. Mais je vous invite à visiter les sites, et si vous venez nous voir, faites-nous signe, on sera très contents de vous recevoir.
Ah, je ne savais pas de vous négocier en plus pour l'Office du tourisme de Seattle, mais c'est bien, Philippe.
Oh non, du tout.
On le garde pour la prochaine fois, parce qu'on aura l'occasion d'en faire.
Ouais.
Parce que sinon, ce Skyplex, il va durer 3 heures.
Non, c'est toi qui me dis que tu fais tu les édites, alors moi, je suis très d'accord. Pour ça, je peux faire la radio.
J'ai cru remarquer.
Mais c'est le danger, c'est d'arriver, et ça, je ne sais pas, c'est le défi d'arriver à faire des segments courts. Mmh.
Merci Philippe. Alors je vais mettre évidemment tous mes liens vers tous tes blogs. Ça va m'obliger à faire un texte long.
Oh non, pitié.
Mais si, il faut comme ça.
Non mais tu sais, t'es pas obligé parce que de toute façon, ils se renvoient tous les uns les autres. Ouais. Hein. Tu vois, si tu vas sur ça, il y a les adresses. T'en fais pas. Je ne veux pas te faire crouler sur le travail.
Merci mon brave. À bientôt.
Allez, salut. Ciao.
Le podcasteur, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez évidemment utiliser les liens RSS sans passer par le blog, mais ce serait sympa de venir faire un petit tour sur www.podcasteur.com. À bientôt.